un Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés.
Je me souviens bien quand j'étais jeune, l'histoire des liens entre la Gaule et l'Albion. On me disait que c'était une des raisons qui incitait César à envahir ce pays. Et il n'y a pas besoin de mentionner cette petite affaire en 1066.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, le mouvement est lancé. Le premier ministre britannique, David Cameron, que les élections à la Chambre des communes viennent de reconduire confortablement dans ses fonctions au 10 Downing Street, a confirmé haut et fort qu'il organiserait bientôt, au plus tard en 2017, un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On appelle cela le Brexit. Cameron affirme sans détour que cette éventualité apparaîtra inévitable si les 27 autres membres de l'Union ne consentent pas à son pays un retour en arrière sur de nombreux points par rapport aux règles qui régissent la solidarité des partenaires. Il ne serait plus question que l'Angleterre agrée la clause des traités de Rome de 1957, parlant, je cite, « d'une union sans cesse plus étroite ». Et elle exigera, entre autres conditions sine qua non, que divers pouvoirs soient retransférés dans les capitales. Par exemple, quant au rôle des parlements nationaux, libres de bloquer les règles émanant de Bruxelles. Elle réclamera l'interdiction de toute discrimination pour la circulation des Européens à l'intérieur de l'Union, sans compter l'accélération des accords de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. L'échéance est évidemment redoutable pour l'ambition collective, et elle incite à se reporter en arrière vers les conditions de l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe, voulue par elle au cours des années 1960 et bloquée alors par De Gaulle, puis acceptée au début des années 1970, au temps de Georges Pompidou. Un référendum, alors, avait obtenu l'accord des Anglais avec 67% des votants, ce qui n'avait pas empêché Londres de réclamer sans vergogne un changement des règles du club au moment de demander à y entrer. Maurice Weiss, professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des relations internationales et des questions de défense, va m'aider à éclairer cette période qui est à la fois proche et lointaine, en quête de possible permanence dans les calculs, les stratégies, les arrière-pensées de nos amis d'outre-Manche, jadis solliciteurs arrogants, aujourd'hui diviseurs déterminés. Et d'abord la voix du général de Gaulle, dans une conférence de presse en date du 27 novembre 1967, après qu'un journaliste lui a demandé s'il était vrai qu'il ait dit un jour « L'Angleterre, je la veux toute nue ».
Monsieur le Président,
c'est à vous pour commencer, si vous permettez que je vous réponde. Remarquez que la nudité pour une belle créature, c'est assez naturel et pour ceux qui l'entourent, c'est assez satisfaisant. Mais quel attrait que j'éprouve pour l'Angleterre, je n'ai jamais dit ça à son sujet. Ça fait partie de ces propos qu'on le porte sur mon compte. Il paraît même qu'on en fait des livres et qui ne répondent que de loin à ma pensée et à mes propos.
Maurice Weiss, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissiez, j'en suis sûr, ce moment qui avait beaucoup frappé à l'époque, ce moment d'une des conférences de presse les plus notoires du général de Gaulle. Oui, ça fait partie, comme d'ailleurs le dit De Gaulle, des propos lapidaires qu'on lui prête volontiers. En réalité, cela provient d'une caricature allemande où l'on voit Macmillan qui est déguisé en femme face à un De Gaulle impérieux.
Allons bon.
Et Macmillan est en train de faire un véritable striptease et il lui reste seulement un soutien-gorge sur lequel il est marqué sucre de la Jamaïque et une culotte où il est marqué beurre néo-zélandais. Il commence commence à enlever le soutien-gorge et la question qui est posée à De Gaulle, c'est tout point d'interrogation et De Gaulle répond oui, je la veux nue. La fameuse anecdote reprise dans la conférence de presse provient probablement de cela, montrant évidemment le caractère autoritaire impérieux de Gaulle dans ses négociations telles que, au fond, les Anglais se le sont représentés tout au long des années 60.
Et puis une virilité forte en face d'une sorte de féminisation de la Grande-Bretagne.
Exactement, avec une espèce d'inversion de ce qui s'était passé à d'autres moments de l'histoire, où c'était la France qui était la femme et la Grande-Bretagne, l'homme. Cela montre bien l'inversion de puissance qui s'est passée à ce moment-là.
Qui a été ressentie d'ailleurs douloureusement à Londres. Les différents habits qui sont progressivement enlevés dans le striptease que vous évoquez, monsieur le professeur Maurice Weiss, incarne les liens spécifiques de la Grande-Bretagne avec les membres du Commonwealth, ce qui est un des problèmes centraux que, évidemment, doivent évoquer les négociateurs.
C'est ça, c'est tous les obstacles à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, tout ce qui fait problème, tout ce que les Anglais demandent à conserver et tout ce que les Français refusent. Par exemple, faire bénéficier au beurre néo-zélandais des préférences pour le petit déjeuner, le breakfast britannique.
Aujourd'hui, David Cameron demanderait plutôt à se rhabiller, si je comprends bien.
Oui, exactement. Exactement. Oui, oui.
Alors nous allons revenir naturellement en arrière et comprendre quelle a été l'attitude de la Grande-Bretagne après la victoire des Alliés en 1945, où on voit Winston Churchill, puis son successeur, le Premier ministre Attlee, marquer qu'il souhaite une Union européenne, tout en considérant que la Grande-Bretagne, que le Royaume-Uni, qui demeure une puissance mondiale, ne peut pas y entrer directement.
Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne se retrouve très isolée face à un continent qui est dévasté. Churchill, lorsqu'il va quitter le pouvoir à la suite des élections générales de 1945, va prendre une espèce de mission, de croisade, pour préconiser l'union de l'Europe. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que la Grande-Bretagne en fera partie, mais il lance l'idée, il faut créer une unité européenne.
C'est même le contraire, puisqu'au fond, il marque, pour l'heure en tout cas, la Grande-Bretagne n'en fera pas partie.
Oui, exactement. Debout l'Europe, mais debout l'Europe sans la Grande-Bretagne.
Il y a deux discours fameux, un à Fulton devant le président Truman aux États-Unis et un second à Zurich en septembre 1946 où il évoque les États-Unis d'Europe dans la ligne que vous venez d'évoquer, Maurice Weiss. Écoutons un extrait de ce discours si vous le voulez bien et puis après nous le traduirons.
We must build a kind of United States of Europe. But I must give you a warning. Time may be short. If we are to form the United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now. I am now going to say something that will astonish you. The first step in the recreation of the European family must be a partnership between France and Germany.
Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. La première étape dans la construction de ces États-Unis d'Europe que nous souhaitons à Londres, sans y entrer nous-mêmes directement, c'est un partenariat à créer entre l'Allemagne et la France.
Il insiste sur le fait que le temps presse. Il faut bien dire, et il ne faut pas oublier cela, c'est qu'à ce moment-là, Winston Churchill est dans l'opposition. Il n'est plus Premier ministre de Grande-Bretagne. Et c'est tout le sel de cette prise de parole et d'intervention de Churchill dans les affaires du continent européen.
Il reste que dans les années 50, lorsque commence de se mettre en place l'aventure européenne, la Grande-Bretagne reste en retrait. C'est vrai, dès le coup d'envoi qu'incarne la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à l'initiative de Jean Monnet et de Schuman en 1950, puis du marché commun, n'est-ce pas ?
Oui, dans l'affaire de la CECA, ce sont les travaillistes qui sont au pouvoir, et les travaillistes réagissent très vivement. Ils n'entendent pas entrer dans la Communauté européenne du charbon de l'acier. Les travaillistes voient dans cette communauté une conspiration du comité des forges, des industriels de la Roure et du Vatican. Et par conséquent, pour eux, c'est tout à rejeter.
Ce qui n'était d'ailleurs que partiellement vrai, à vrai dire. Je ne sais pas quant au Vatican. Oui, qui devait être assez influent. Du côté des industriels de l'acier, il y a eu au contraire beaucoup de réticences.
Oui. Oui, c'est vrai. Les réticences reviennent encore plus fortes au moment de la relance européenne dans les années 50, où il y a bien un négociateur britannique qui vient assister à ce que sont les négociations de Val-Duchesse, etc.
Mais Val-Duchesse est un château en Belgique.
Voilà, où les Français, les Belges et les autres essayent de relancer l'Europe, ce qui va aboutir à la création de la Communauté économique européenne et de l'Euratom.
La relancer parce qu'il y a eu un grand échec avec la faillite du projet de l'armée européenne, de la CED.
Avec la Communauté européenne de défense.
En 1954.
À laquelle les Anglais n'ont pas voulu participer en disant « faites une armée européenne, mais nous n'en ferons pas partie ». En réalité, en 1954, à l'automne 54, les Anglais repêchent la chose en créant l'Union de l'Europe occidentale à laquelle se rallient les Allemands et les Italiens. C'est une façon comme une autre de faire rentrer l'Allemagne dans le concert européen et qui va rendre possible le réarmement allemand, qui était au fond le grand enjeu de la Communauté européenne de défense. Il n'empêche que les Anglais se sont mis en dehors de toute la relance européenne, et il y a une anecdote extraordinaire que raconte Jean-François Deniaud, qui était le négociateur français dans ces négociations. Il raconte que le négociateur anglais n'était là que sinon pour y insérer sa pipe. Enfin, un jour, il demanda la parole à la surprise générale. C'était pour tenir le discours d'adieu suivant. « Monsieur le Président, messieurs, je voulais vous remercier de votre hospitalité et vous indiquer qu'elle va cesser à partir d'aujourd'hui. En effet, je regagne Londres, fonctionnaire sérieux. Il me gêne de perdre mon temps et de ne pas justifier le modeste salaire que me verse mon gouvernement.
Eh bien,
j'ai suivi avec intérêt et sympathie vos travaux. Je dois vous dire que le futur traité dont vous parlez, CE, et que vous êtes chargé d'élaborer, petit A, n'a aucune chance d'être conclu. Petit B, s'il est conclu, n'a aucune chance d'être ratifié. Petit C, s'il est ratifié, n'a aucune chance d'être appliqué. Nota bene, s'il l'était, il serait d'ailleurs totalement inacceptable pour la Grande-Bretagne. On y parle d'agriculture, ce que nous n'aimons pas, de droits de douane, ce que nous récusons, et d'institutions, ce qui nous fait horreur. Monsieur le Président, messieurs, au revoir et bonne chance.
Rien de plus savoureux avec le recul.
Si bien que la Grande-Bretagne ne va pas faire partie de la CE, des traités signés en 1957, et pour lequel Christian Pilot fait une déclaration lors de la signature du traité de Rome.
Au moment où nous allons signer à Rome, dans cette salle illustre du Capitole, ces deux traités, il importe de ne pas laisser s'établir dans le monde une confusion sur nos intentions. Sans doute, les six pays, en s'unissant, veulent-ils accroître leur capacité de production et accélérer le rythme de leur développement économique. Ils n'entendent pas pour autant s'isoler du reste du monde et dresser autour d'eux des barrières infranchissables. La France, malgré les difficultés que les circonstances l'obligent actuellement à surmonter, signe sur ce point les deux traités dans le même esprit que ses partenaires. Il faut que nous proclamions une fois de plus notre désir d'associer d'autres pays à l'édification européenne, notamment la Grande-Bretagne, sans laquelle l'Europe que nous voulons construire serait incomplète, et de développer notre collaboration politique et économique avec l'ensemble du monde libre. Nous aurons l'occasion, au cours des prochaines semaines, de procéder à l'étude de deux importants projets. Le premier concerne la zone de libre-échange que nous espérons réaliser dans le cadre de l'OSCE. Il nous faudra résoudre des difficultés réelles, concernant notamment le régime des produits agricoles et la participation des territoires d'outre-mer. Mais les contacts que nous avons pu avoir les uns et les autres avec nos amis britanniques nous laissent espérer que les discussions s'engageront avec le désir très net de part et d'autre de les voir aboutir rapidement. Ainsi, l'œuvre dont nous franchissons aujourd'hui la deuxième étape après celle de la Communauté européenne du charbon et de l'acier n'aura point pour effet la création, comme certains nous le reprochent, d'une petite Europe isolée, mais sera l'ébauche de la grande Europe qui constitue notre objectif final.
C'était donc Christian Pinault qui s'exprimait ici le 25 mars 1957. Je rappelle qu'il était le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Guy Mollet. Il se réjouit de ce qui a été décidé, qui a été négocié du côté français également d'ailleurs par Maurice Faure, le très actif secrétaire d'État radical aux affaires européennes. Il se satisfait de ce qui a été décidé, mais il veut marquer, en dépit des propos que vous avez cités du représentant britannique, que cette union reste ouverte à l'adhésion d'autres pays plus tard.
Et en particulier de la Grande-Bretagne. Il faut pas oublier que entre le mot du négociateur britannique dans les négociations pour la relance européenne et le discours de Christian Pinault, il y a eu Suez. Il y a eu ce moment où les Anglais et les Britanniques se sont retrouvés très proches, alliés dans cette affaire.
Après la nationalisation du canal de Suez par Nasser.
Exactement. Il reste chez les socialistes français, et en particulier dans le gouvernement de Guy Mollet, la volonté de ne pas laisser de côté la Grande-Bretagne, à laquelle ils sont liés par toute une série de liens, et en particulier le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance.
Christian Pinault avait été lui-même un très brillant résistant, donc oui. Il avait été payé pour savoir ce que avait été l'apport de la Grande-Bretagne dans la victoire finale des Alliés.
Exactement. On voit combien, au seuil de l'année où le général de Gaulle va revenir vous voir, la question européenne est si importante dans les relations franco-britanniques. Au fond, auparavant, c'était une question qui concernait tous les pays européens de l'Europe occidentale. Elle va devenir de plus en plus une question franco-britannique.
Dans le même temps, l'Angleterre s'efforce de constituer un contre-pouvoir avec le projet alternatif d'une zone de libre-échange.
D'ailleurs, Christian Pinault le dit, le projet au sein de l'Organisation européenne de coopération économique, l'OECE, il y avait l'idée de créer une grande zone de libre-échange. Le problème qui se pose en 1958 est tout à fait simple, c'est que les Anglais veulent accentuer l'orientation vers cette zone de libre-échange parce qu'elle leur donne toute latitude pour avoir à la fois des relations commerciales profitables avec les pays du Commonwealth, avec les États-Unis, etc., que d'autre part, elle pourra avoir aussi des relations profitables avec les pays européens. Mais d'une certaine façon, si cette zone de libre-échange aboutissait, cela aboutirait au fond inévitablement à ce que le marché commun soit moins profitable et y perde beaucoup de son intérêt. Pour une raison toute simple, c'est que la zone de libre-échange est une zone de commerce ouvert, tandis que la différence que le marché commun est beaucoup plus resserré entre les 6 pays du marché commun et il y a des contraintes beaucoup plus fortes.
Avec un tarif extérieur commun, avec des frontières.
Avec un tarif extérieur commun, avec déjà l'idée d'une liberté de circulation, avec toute une série d'idées qui sont toute l'ambition de la communauté économique européenne, alors que ce n'est pas du tout l'idée d'une grande zone de libre-échange ouverte aux pays de tout le monde, et en particulier au libre-échange atlantique.
Sans compter que du côté de l'Europe des Six, il y a une volonté politique d'union progressive, je pense. Il s'agit du Benelux, c'est-à-dire Luxembourg, Pays-Bas, Belgique, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Et en face, la zone de libre-échange reste ouverte aux grands vents, notamment aux grands vents de l'Atlantique. Il s'agit de l'Autriche, du Danemark, de la Norvège, du Portugal, de la Suède et de la Suisse. Voilà que les Anglais ont été contraints de constater l'échec de cette zone et qu'ils vont pratiquer leur vieille doctrine. If you can't beat them, join them. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les.
Oui, c'est exactement ce qui se passe en 1961. En 1961, Macmillan constate qu'il n'a pas pu faire revenir De Gaulle sur son idée du marché commun, qu'il n'a pas pu obtenir que la zone de libre-échange ait tout le succès qu'il souhaitait.
Macmillan, c'est le Premier ministre conservateur.
Le Premier ministre conservateur britannique. Et il se décide, en effet, à poser la candidature britannique au marché commun. Et cela, évidemment, va durer environ 18 mois, où il y aura toute une série de négociations et de conversations entre De Gaulle et Macmillan pour essayer de trouver une solution aux problèmes permanents que sont les problèmes de l'agriculture, du Commonwealth et des préférences accordées par la Grande-Bretagne à des pays extérieurs au marché commun. Le problème était en effet celui-ci. Le marché commun imposait une préférence de commerce intra-communautaire, alors que les Anglais trouvaient que c'était important de pouvoir s'approvisionner en dehors du marché commun, d'autant plus que les prix des produits agricoles, que ce soit tropicaux, de leurs anciennes colonies ou des pays du Commonwealth, étaient beaucoup moins chers que les prix pratiqués à l'intérieur du marché commun. La conséquence de cela, c'est que les Anglais ne voulaient surtout pas voir monter les prix de consommation à l'intérieur de la Grande-Bretagne. Et ils savaient précisément que si c'était le cas, il y aurait une inflation des prix en Grande-Bretagne.
Et dans le même temps, diminuent les relations commerciales avec le Commonwealth, avec les dominions, telle enseigne que les avantages que la Grande-Bretagne pouvait en tirer déclinent par rapport à la dimension des inconvénients que vous venez d'évoquer en face du marché commun.
Absolument, absolument. En 1950, l'Europe ne représentait que 10% des exportations britanniques, alors que les pays du Commonwealth, au cours de cette même année, représentaient 50%. Pour la Grande-Bretagne, en 1950, c'était encore un pays qui était très étroitement lié au pays du Commonwealth, alors que 10 ans plus tard, c'était tout à fait différent et que les Britanniques aspiraient à entrer dans le marché commun ou entrer dans une zone pour bénéficier des bénéfices du marché commun.
Et c'est sous cet éclairage qu'il faut comprendre le propos d'Harold Macmillan. C'est un discours du 16 juin 1962, à l'occasion de la pose de la première pierre de la fameuse maison française à Oxford. Il a été souvent en France, il a été à Alger en particulier en 1943, lorsque De Gaulle y a installé son pouvoir. Écoutons Harold Macmillan.
C'est par une heureuse coïncidence que je pose cette première pierre, si peu de temps après ma visite au général De Gaulle. Il se passe en ce moment, en Europe, des événements d'un intérêt palpitant. Et c'est pour les Européens le moment de faire leur preuve. Une magnifique occasion s'offre à nous. Une occasion se présente en particulier aux deux vieilles et fières nations de France et de l'Angleterre. Nous avons chacun nos traditions et nos convictions. Nous tenons chacun à ce que nous avons appris et gagné à la rude école de l'histoire. Nous tenons chacun à notre identité nationale. Chacun est convaincu que nous avons beaucoup à donner à la civilisation. Chacun désire montrer ses qualités de chef. Il n'y a en tout ça rien de nouveau. Ces traditions et ces convictions ne sont pas un obstacle au rapport étroit entre nos deux nations. Je me souviens bien, quand j'étais jeune, l'histoire des liens entre la Gaule et l'Albion. On me disait que c'était une des raisons qui incitèrent César à envahir ce pays. Et il n'y a pas besoin de mentionner cette petite affaire en 1066. Maintenant, ce sera plus commode. On aura ou le tunnel ou le pont. Dans notre communiqué, le général de Gaulle et moi-même avons reconnu, je cite les mots, la communauté d'intérêt entre la France et le Royaume-Uni. Ce ne sont pas là de vaines paroles.
Saluons, si vous le voulez bien, Maurice Weiss, l'humour du Premier ministre Macmillan, sa culture historique aussi.
Ce discours de Macmillan se place à un moment en effet très important parce que au cours de l'année 1962, il y a deux rencontres importantes entre De Gaulle et Macmillan. Ce discours de Macmillan se place tout de suite après la rencontre de Champs, où
le château de Champs,
où l'atmosphère a été plutôt cordiale entre les deux hommes et où on en est ressorti avec l'idée qu'il y aurait probablement une possibilité de sortir des négociations concernant le marché commun avec un certain succès. Cela ne va pas être conclu à la deuxième session de négociation qui a lieu, au contraire, au château de Rambouillet en décembre suivant. Comme on le voit, l'humeur de Macmillan est tout empreinte de ce moment de cordialité qu'a été la rencontre de Champs, où il a cru, et pas seulement lui, que de Gaulle serait susceptible d'être amadoué et d'accepter certains compromis dans la négociation.
Et puis, les vents tournent et on constate quelle est la pensée profonde du général de Gaulle, qui est que toute entrée serait prématurée.
Il ne faut jamais, dans ces affaires, oublier qu'il y a d'un côté la politique étrangère et puis de l'autre côté la politique intérieure. On le voit bien actuellement en Grande-Bretagne avec David Cameron, parce qu'il est certain qu'il ne peut pas faire exactement ce qu'il veut si lui-même semble parfaitement d'accord pour que la Grande-Bretagne reste dans le marché commun. Il y a tout de même une forte opposition, et les sondages le montrent, à ce que la Grande-Bretagne y rentre. Et de même, pendant toutes ces années-là, il ne faut pas oublier qu'il y avait tout de même des problèmes de politique intérieure qui étaient importants. Du côté britannique, il y avait la volonté de Macmillan de montrer qu'il maîtrisait la situation, y compris sur le plan intérieur. Mais en France, l'année 62 elle-même est particulièrement délicate, puisque quand on est en juin 62, de Gaulle vient tout juste de terminer avec l'affaire d'Algérie. Il a des difficultés avec les Européens, parce que il a fait dans une conférence de presse une critique des Européens, ce qui fait que les ministres qui étaient de sensibilité européenne, en particulier MRP, dans le gouvernement de Georges Pompidou,
démocrate chrétien,
ont décidé de quitter le gouvernement. Et par conséquent, toute l'année 62 jusqu'en novembre est une année difficile pour de Gaulle. Il y a attentat, il y a la décision de solliciter par référendum l'opinion des Français concernant l'élection du président au suffrage universel.
Petit clamart d'un côté, de l'autre opposition à peu près de tous les partis de la 4ème République.
Exactement, tout le monde est contre cela, et contrairement à toutes les prévisions, de Gaulle réussit, obtient la majorité, si bien que à la fin de l'année, il est beaucoup plus sûr de lui et beaucoup plus solide, ce qui fait qu'il va apparaître véritablement impérial dans sa conférence de presse du 14 janvier 1963.
La Grande-Bretagne a posé sa candidature au marché commun. Elle l'a fait après s'être naguère refusé à participer à la communauté qu'on était en train de bâtir. Puis ensuite, après avoir créé une zone de libre-échange avec 6 autres États, et puis enfin, après avoir, je peux bien le dire, on se rappelle les négociations qui ont été menées si longuement à ce sujet, après avoir fait quelques pressions sur les 6 pour empêcher que ne commence réellement l'application du marché commun. Enfin, l'Angleterre a demandé à son tour à y entrer, mais suivant ses propres conditions. Cela pose sans aucun doute à chacun des 6 États, et ça pose à l'Angleterre, des problèmes d'une très grande dimension. L'Angleterre, en effet, elle, est insulaire, elle est maritime, elle est liée par ses échanges, ses marchés, son ravitaillement aux pays les plus divers et souvent les plus lointains. Elle exerce une activité essentiellement industrielle et commerciale et très peu agricole. Elle a dans tout son travail des habitudes et des traditions très marquées, très originales. La nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux. Alors il est possible qu'un jour, l'Angleterre parvienne à se transformer elle-même suffisamment pour faire partie de la communauté européenne sans restriction, sans réserve et de préférence à quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, les six lui ouvriraient la porte et la France n'y ferait pas d'obstacle, bien qu'évidemment la simple participation de l'Angleterre à la communauté changerait considérablement sa nature et son volume. Il est possible aussi que l'Angleterre n'y soit pas encore disposée. Et c'est bien là ce qui paraît résulter des longues conversations de Bruxelles.
Alors voilà, on ne peut pas être plus clair. Un jour peut-être, l'Angleterre pourra venir sans restriction, sans réserve et de préférence à quoi que ce soit. Ce qui veut dire qu'il faut, aux yeux de De Gaulle, qu'il y ait un choix définitif et que pour l'heure, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est la conjoncture qui domine ou est-ce que c'est la structure? Est-ce que dans son esprit, il y a une sorte de réalité ontologique de l'Angleterre? On se pose la question en l'écoutant.
Pour moi, il ne fait pas de doute que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut se rappeler que en juin 1944, juste à la veille du débarquement, Winston Churchill dit à De Gaulle « Chaque fois que nous aurons à choisir entre l'Europe et le grand large, nous choisirons le grand large ». Et ça, De Gaulle ne l'a jamais oublié. Et par conséquent, dans cette conférence de presse, il montre bien que la Grande-Bretagne, si elle veut entrer dans l'Europe, il faut qu'elle cesse sa relation spéciale avec les États-Unis. D'une certaine façon, quand on voit ce qui se passe actuellement dans les négociations avec le traité de libre-échange de la communauté atlantique, on en est exactement à une analogie près sur le même point. Le secrétaire au Foreign Office de Macmillan disait « Notre horizon, c'est une communauté atlantique ». D'une certaine façon, les négociations qui se font actuellement pour le fameux TIPP montrent bien les différences d'approche d'un côté des Britanniques, de l'autre côté des Français. Pour De Gaulle, ne pas accorder de compromis aux Anglais était extrêmement important. C'est Alain Perfit qui narre cette anecdote. Au moment de Rambouillet, il raconte que ce pauvre homme à qui je ne pouvais rien accorder avait l'air si triste, si abattu, que j'avais envie de mettre la main sur son épaule et dire, comme Édith Piaf, « Ne pleurez pas, Milord ».
D'ailleurs, De Gaulle n'était pas indifférent à la chanson populaire, pas plus qu'au cinéma populaire.
Il savait parfaitement humer l'air du temps, le faire savoir au moment de ses fameuses conférences de presse.
Macmillan est en effet étonné, même stupéfait, et il le laisse comprendre. On connaît le détail, bien sûr, de ces échanges à Champ comme à Rambouillet par les documents diplomatiques français. Alors bien sûr, à cette attitude du général de Gaulle répond le comportement étonné ou indigné d'un certain nombre de nos partenaires de l'Europe des Six, en particulier du côté de la Belgique.
Les partenaires français sont extrêmement hostiles à cette position française parce que, au fond, De Gaulle a décidé d'arrêter les négociations. Les négociations auraient pu continuer assez longtemps. Et d'ailleurs, Couve de Murville, dans des archives orales que nous détenons aussi au ministère des Affaires étrangères...
C'était le ministre des Affaires étrangères de De Gaulle, il faut
oui,
le rappeler.
Tout à fait. Couve de Murville me disait ceci. Moi, j'avais conseillé à De Gaulle de continuer la négociation parce que, au fond, elle ne pouvait pas aboutir. Mais lui a préféré casser.
Vision diplomatique ou vision d'un homme d'État.
Exactement. Et du coup, évidemment, les relations entre la France et les autres pays du marché commun vont être très difficiles au cours des années qui vont suivre. D'autant plus que la France ne peut plus compter sur le chancelier Adenauer qui a quitté le pouvoir en Allemagne et que la France va se lancer plutôt dans une politique à l'échelle du monde et va laisser tomber d'une certaine façon sa politique européenne à laquelle De Gaulle avait consacré beaucoup de temps pendant les quatre premières années de sa présidence.
On ne peut pas en effet faire l'économie quand on considère cette question qui est la nôtre ce matin, l'entrée de l'Angleterre dans l'Europe, au moment où elle risque d'en sortir, on ne peut pas faire l'économie d'un rappel de ce qu'ont été les hauts et les bas des relations entre Paris et Bonn, entre la France et l'Allemagne. La fin de 1963, c'est le moment du voyage triomphal de De Gaulle en République fédérale d'Allemagne. Ensuite, les relations sont moins intimes, puisque, comme vous le dites, le successeur d'Adenauer, Ludwig Erhard, est beaucoup plus atlantiste, comme on dit à l'époque, beaucoup plus favorable aux relations intimes avec les États-Unis d'Amérique que ne pouvait être Konrad Adenauer.
Les relations franco-allemandes, au cours de l'année 1962, ont pris un tournant tout à fait favorable avec les deux voyages d'Adenauer en France en juillet et de Gaulle en Allemagne dans la fin de l'année 1962, et surtout avec le fameux traité de l'Élysée en janvier 1963, où on voit d'une certaine façon le symbole de la réconciliation franco-allemande. On n'avait pas attendu de Gaulle pour un rapprochement franco-allemand, cela avait été fait par la 4e République et par des hommes comme Jean Monnet, Robert Schuman, Pierre Mendès-France, etc. Mais il est vrai qu'avec le traité de l'Élysée et de janvier 63, il est clair que cette réconciliation était consacrée.
Cette relation spécifique entre la France et l'Allemagne est fondamentale à considérer la manière dont l'Union européenne continentale considère la spécificité britannique. D'ailleurs, en vous écoutant, je me demande si les relations actuelles entre François Hollande et Angela Merkel peuvent faire écho à ce temps-là, à l'époque, chaque chose étant évidemment spécifique, à l'époque de Gaulle-Adenauer. Est-ce que c'est la continuité à vos yeux qui prime, ou est-ce qu'au contraire la conjoncture est complètement différente dans une Europe énormément élargie?
Et ce qui est probablement très intéressant à étudier, c'est ce qui va se passer, ou ce qui est en train de se passer, dans les négociations que le Premier ministre britannique engage avec les différents partenaires européens. Et on peut se poser la question de savoir qui de la chancelière allemande ou du président français sont les plus faciles à amadouer. Parce que c'est bien la grande question. Si David Cameron veut revenir devant les électeurs au moment du référendum de 2017 avec un assez grand nombre de concessions, il faut qu'il les obtienne de ses partenaires européens. Et il est clair que les partenaires français et allemands sont les plus importants pour lui.
En tout cas, on peut dire qu'il y a un rééquilibrage par rapport à 1962 quant au rôle de la France et de l'Allemagne pour ce qui concerne les relations avec la Grande-Bretagne. La France avait un leadership qu'elle n'a plus de la même façon, même si elle reste essentielle.
La grande différence entre cette période et la nôtre, c'est que dans cette période des années 60, la France est certainement la puissance dominante en Europe, avec le magistère du général de Gaulle. La Grande-Bretagne est manifestement sur le déclin, déclin économique, déclin social, déclin pas culturel, parce que c'est un plein moment de reviviscence des arts, de la musique en Angleterre.
Les Beatles.
Avec les Beatles, mais pas seulement, avec les arts de rue, etc. Alors que maintenant, évidemment, ce qui est marquant, c'est la puissance économique de l'Allemagne, et même au-delà de la puissance économique, la puissance tout court de l'Allemagne, puisqu'on la voit sortir de son rôle restreint au domaine économique et prendre des positions très fortes dans les latitudes vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine, etc. Il y a évidemment une grande différence entre la période des années 60 et celle que nous connaissons actuellement.
Vous évoquez, Maurice Valls, vous évoquez les Beatles. De Gaulle y avait été naturellement attentif à leur succès, qui a mis un certain temps d'ailleurs à se développer en France, mais qui a été ensuite considérable. Chez nous, il y voyait un des signes d'une certaine décadence anglaise avec ses chevelus qui venaient parader.
Exactement. Vu de Paris, avec une assez grande rigueur morale encore, une assez grande observance d'un certain nombre de traditions, etc., on n'est pas encore en 68, ce qui se passe en Grande-Bretagne est véritablement échevelé, et dans des conversations même qui se trouvent dans les archives diplomatiques, de Gaulle se gausse de ce qui se passe en Grande-Bretagne et y voit le signe de la décadence de ce pays, pour lequel il continue d'avoir une très grande admiration. Il n'empêche qu'il la voit d'un air plutôt apitoyé.
Et c'est pourquoi il ne change pas de point de vue. Et lorsque, quelques années après le premier échec de la Grande-Bretagne, dans son désir d'entrer dans l'Union européenne, elle se heurte à un second échec, Cette fois-ci, c'est un gouvernement travailliste, puisque Harold Wilson a remplacé au 10 Downing Street le conservateur Macmillan. C'est le travailliste Harold Wilson qui s'efforce d'entrer, qui vient frapper à son tour à la porte du marché commun.
Dans ce cas-là, en 1967, De Gaulle va frapper un grand coup, parce que dans la précédente candidature, il y avait eu une négociation sur les conseils de celui qui avait mené la négociation à ce moment-là et qui était depuis devenu ambassadeur à Moscou, Olivier Wormser, un des grands hauts fonctionnaires de l'État dans cette période. Sur les conseils d'Olivier Wormser, De Gaulle va casser net la candidature britannique avant même que ne s'ouvrent les négociations, parce que il craint que si les négociations sont ouvertes, elles ne mettent la France en difficulté. Et évidemment, dans la mesure où la France met son veto en novembre 67, on ne peut pas commencer quoi que ce soit, et les négociations ne vont pas commencer, et par conséquent, la Grande-Bretagne est une fois de plus repoussée. Il n'empêche que De Gaulle a à ce moment-là un certain nombre de raisons objectives. C'est en effet la décrépitude économique de la Grande-Bretagne, c'est la livre sterling qui doit être dévaluée, c'est des difficultés économiques extrêmement fortes concernant la zone sterling même. Faire entrer un pays pareil dans la communauté économique européenne serait malvenu et inopportun. Et De Gaulle, par conséquent, a toute raison de repousser dans sa conférence de presse de novembre 67 la candidature britannique et à dire il n'est pas question, pour l'instant, la Grande-Bretagne n'est pas prête.
Alors, évidemment, pour ce qui constitue l'ambition britannique de rejoindre la communauté européenne, ce sont de sombres jours dont la tonalité est exprimée par l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Patrick Reilly, qui quitte son poste en septembre 1968 avec visiblement un certain chagrin.
Il est certain que la question de la candidature britannique aux communautés européennes a été au cœur de ma mission. Et c'est naturellement une grande tristesse pour moi de quitter la France à un moment où je ne vois pas de perspective de progrès dans ce domaine. Mais d'une chose, je suis sûr, c'est que la candidature britannique à la CEE restera un élément essentiel de la politique nationale britannique, que tout gouvernement britannique, travailliste ou conservateur, continuera à frapper à cette porte et n'aura de cesse qu'elle ne se soit ouverte, et qu'aussi longtemps qu'elle restera fermée, ce nuage continuera à assombrir les relations franco-britanniques.
Il faut attendre le départ du général de Gaulle du pouvoir en avril 1969 pour que l'Angleterre puisse mettre un pied dans la porte. Auparavant, il y a un épisode sur lequel il faut s'attarder un instant, parce que du côté français, on y a vu vraiment le comportement classique de la perfide Albion. C'est l'épisode Soames. Soames, c'est le gendre de Churchill, un ancien ministre qui est ambassadeur à Paris. Racontez-nous cet épisode qui est assez significatif, notamment à la lumière des événements les plus récents.
On est à un moment où la France est tout de même isolée en Europe, isolée et mal en point après ce qui s'est passé en 68. Le ministre des Affaires étrangères n'est plus Maurice Couve de Murville, c'est Michel Debré, qui est beaucoup plus anglophile que ne l'était Couve.
Et puis qui se dit que si l'Angleterre, qui ne veut pas d'une Europe intégrée, entre, cela renforcera les défenses contre ce qui lui paraît détestable.
Et en particulier, équilibrera l'Europe vis-à-vis de l'Allemagne, qui, dès ce moment-là, montre sa puissance. Si bien que De Gaulle va tenter une ouverture du côté de Soames, pour lequel il a une certaine amitié, parce que il a épousé, comme il dit, la petite Marie, c'est-à-dire la fille de Churchill. Malgré tout ce qu'il a comme mot dur à l'égard de la Grande-Bretagne, il ne peut pas oublier ses années de guerre, et en particulier sa relation avec la famille de Churchill. Dans sa conversation avec Soames, il lui dit qu'il y aurait probablement quelque chose à faire pour trouver une solution à ce que la Grande-Bretagne se rapproche de l'Europe. Il ne s'agirait pas de faire rentrer la Grande-Bretagne dans le marché commun, mais trouver un arrangement quelconque. Je n'entre pas dans le détail. Le problème est le suivant, c'est que Soames, au lieu d'en parler directement au Premier ministre britannique, fait passer la communication par les services du Foreign Office, services du Foreign Office qui sont extrêmement francophones à ce moment-là et qui font tout ce qu'ils peuvent pour torpiller cette affaire, d'abord en donnant l'information aux Allemands, ce qui est évidemment une façon peu courtoise de considérer les relations internationales, et ensuite de faire savoir que les Anglais ne sont absolument pas intéressés par les propositions de De Gaulle. C'est vraiment un moment où De Gaulle, pour une fois, est très penaud. Couve de Murville m'avait dit, dans Couve était à ce moment-là Premier ministre, le général m'a téléphoné dans l'après-midi en me disant, vous savez, j'ai eu une conversation avec Soames, je ne sais pas si j'ai bien fait. Et Couve lui a dit, soyez sûr, les Allemands le seront dans quelques heures. Et par conséquent, évidemment, l'affaire capote, et ça n'est que Pompidou qui pourra la reprendre au cours de l'année 69.
Le général s'en va et son successeur Georges Pompidou, d'entrée de jeu, est décidé à faire entrer la Grande-Bretagne dans le marché commun, en tout cas y consentir. C'est ce qu'il faut maintenant pour finir, considérer Maurice Weiss.
Georges Pompidou, dès son arrivée au pouvoir, a comme feuille de route de régler la question de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, et il le dit très très vite, et dès le 2 décembre 69, au moment de la conférence de La Haye, il annonce que il faut aller vers un approfondissement du marché commun.
Et un élargissement aussi.
Et puis, c'est ce qu'on appelle le triptyque, achèvement, approfondissement, élargissement, élargissement, c'est évidemment l'entrée de la Grande-Bretagne. Les choses ne vont pas être très faciles, mais elles vont être facilitées par le fait que, à la fois Pompidou et Edward Heath, le nouveau Premier ministre britannique...
L'ancien négociateur.
C'est la grande nouveauté, c'est que c'est la chance extraordinaire, c'est que au moment des élections générales, les conservateurs prennent le pouvoir, le Premier ministre et Edward Heath, ancien négociateur, comme vous l'avez dit, les relations entre Edward Heath et Pompidou vont être extraordinairement sereine et cordiale. Dans les conversations entre Edward Heath et Georges Pompidou, on a l'impression de deux hommes qui se font vraiment confiance. Alors, les problèmes existent tout de même, mais on va, à partir de mai 71, vers une solution très rapide, au point que le traité d'adhésion est signé en janvier 72 et que le 1er janvier 73, les trois pays avec lesquels on négocié pour l'élargissement...
L'Angleterre, l'Irlande et le Danemark.
Voilà, et pas la Norvège qui a en définitive refusé d'entrer dans le marché commun.
Elle est toujours en dehors de l'Union Européenne.
Toujours en dehors. Ces trois pays vont rentrer dans le marché commun et les six deviennent neuf. L'affaire n'est pas pour autant terminée parce qu'avec la Grande-Bretagne, jamais rien n'est terminé. Puisque... À la suite de cette période, Edward Heath va, comme très souvent en Grande-Bretagne, provoquer des élections générales en croyant qu'il va les remporter. Et ce sont les travaillistes qui l'emportent. Et les travaillistes avaient fait la campagne sur le thème « No entry on Tory terms », pas d'entrée dans le marché commun selon les conditions des conservateurs. Et par conséquent,
patatras,
il va déclarer qu'il veut renégocier le traité et qu'il va organiser un référendum pour demander aux Anglais s'ils sont bien d'accord avec cela.
Voilà,
c'est extraordinaire.
Voilà, je voulais vous en emmener, puisque vraiment, alors l'écho, nouvelle condition pour entrer dans le club, référendum dont on brandit la menace, on a l'impression d'être aujourd'hui, Maurice Weiss.
On se trouve, évidemment, sur le plan des conditions politiques, dans une analogie extraordinaire. C'est pas exactement sur le plan général, parce que, au fond, il faut bien le dire que la situation en Grande-Bretagne est encore pire en 1973-1974 qu'elle ne l'était auparavant, et bien pire à ce qu'elle est actuellement. En effet, tout va dans un mauvais sens. C'est le charbon qui ne marche plus, d'une certaine façon, la crise du pétrole en 73, l'inflation. Les Anglais sont contraints à des économies d'énergie. Edward Heath est extrêmement impopulaire dans les classes populaires, si bien que dans les élections générales, il est battu. Et que, en effet,
Wilson arrive
au pouvoir avec une très courte majorité. Il décide d'organiser de nouvelles élections en octobre 74 où il a une majorité un peu meilleure. Et il a annoncé tout de suite qu'il ferait une négociation nouvelle avec les Européens.
Là, on y est vraiment avec Cameron, oui.
Pour expliquer que à la suite de cela, il ferait un référendum pour demander aux Anglais s'ils sont d'accord pour rester dans le marché commun ou non.
Alors cette renégociation d'un club où on vient d'entrer, est-ce que ça évoque pour vous les exigences actuelles du Premier ministre britannique ?
L'essentiel est là, en effet. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des négociations qui sont lancées. Il y a un compromis qui est trouvé au Conseil européen de Dublin en mars 1975. Les Anglais voulaient évidemment des réforme importante, la réforme de la politique agricole commune qui ne leur convenait pas. Ils voulaient une réduction de leur quote-part dans le budget du marché commun parce que leur quote-part allait augmenter considérablement.
S'assurer qu'ils en auraient le retour, c'est ce que Mme Thatcher plus tard appelle la dira sous la forme « I want my money back, je veux
Alors, ils vont tout de même avoir un certain nombre de compromis et de concessions, en particulier sur les produits laitiers de Nouvelle-Zélande et le sucre du Commonwealth. Ils obtiennent quand même satisfaction, si bien que Wilson peut organiser un référendum en juin 75 où il va obtenir 67% de oui. La question qui est posée aux Anglais, elle est extrêmement simple. Voulez-vous que le Royaume-Uni reste dans le marché commun ?
Alors que si on avait posé la question avant, voulez-vous que le Royaume-Uni entre dans le marché commun ? Il se peut que la réponse ait été différente.
Exactement, exactement.
Mais là, ce sera forcément, avec le cas de Cameron, ce sera forcément le même type de question.
Ce sera le même type de question et je prends le pari que l'Angleterre restera dans le marché commun.
Eh bien, je ne manquerai pas de repasser cette émission, Maurice Weiss, le jour venu, en 2017. C'est d'ailleurs ce que vous souhaitiez, c'est pourquoi vous prenez ce pari. Auparavant, je voudrais marquer que dès l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, on voit dans l'opinion publique britannique beaucoup de flottements. C'est clair, en particulier dans la presse tabloïde, qui a toujours été violemment hostile à Bruxelles et aux institutions européennes, avec une vulgarité dans l'expression qui nous laisse parfois pantois. Et puis, il y a des Anglais, des Anglaises qui sont incertains. Écoutez donc cette réaction de Monsieur et Madame White, qui sont interviewés pour Actuel 2 sur Antenne 2, le 12 novembre 1973.
L'homme de la rue, qui lui ne joue pas en bourse, ressent peut-être une sorte de désenchantement. Le gouvernement lui a demandé de serrer sa ceinture d'un cran, il l'a fait, mais il n'a pas l'impression que cela lui a rendu la vie plus facile. Le marché commun est-il responsable de cet état de fait ? Les Anglais sont divisés, mais ils sont chaque mois plus nombreux à regretter l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. 44% contre en juin, 49% en octobre. Monsieur et Madame White, des Anglais bien tranquilles, partagent cet avis. Lui est responsable des ventes dans une usine, il gagne 2000 francs par mois et son salaire n'a pas été augmenté depuis 3 ans.
Alors, on a l'impression que les Anglais finalement refusent un peu cette entrée dans le marché commun. Là.
Oh, certainement, on ne veut pas être dans le marché commun. Les Anglais n'aiment pas.
Pourquoi ?
Pas du tout. Eh bien, ici en Angleterre, on a une certaine indépendance, on aime penser soi-même, créer soi-même, sa façon de vivre.
Et
ils ont l'impression que le marché commun, c'est peut-être obligé de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire.
Oui, détruit le national héritage.
L'héritage. C'est une île ici, n'est-ce pas ? Alors on est plus indépendant peut-être, je ne sais pas.
Ben, je crois que c'est pas pour nous, c'est pour
mais pour les autres générations, pour les jeunes, c'est peut-être mieux qu'ils soient dans le marché commun.
Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis que l'Angleterre est entrée dans le marché commun, par exemple ?
Les prix ont tellement augmenté qu'on ne peut plus avoir de breakfast le matin. On ne peut pas avoir bacon and eggs like we use. Eggs double le prix. And tout augmente. Et les problèmes, nous avons beaucoup plus de problèmes. Mais je ne sais pas si c'est la faute du marché commun. Mais enfin, on lui met tout sur le dos et ça nous donne l'occasion de râler.
Alors si le breakfast avec les œufs au bacon est menacé, Maurice Weiss, en Grande-Bretagne, on peut pas imaginer plus effroyable.
Oui, c'est d'ailleurs tout à fait vrai. L'inflation en Grande-Bretagne, début des années 70, est extrêmement forte. Il y a en effet toute une série de facteurs qui contribuent. La crise du pétrole, la crise du charbon, les problèmes européens, le fait que les Anglais doivent acheter leurs produits à l'intérieur du marché commun, faute de quoi ils auraient à payer beaucoup d'indemnités, beaucoup d'argent à cause du tarif extérieur commun. On a vraiment l'impression que dans les années 70, comme actuellement, les premiers ministres britanniques doivent compter avec l'opinion publique et ils doivent se mettre de leur côté. Une opinion publique britannique qui voit surtout dans le marché commun l'omnipotence de Bruxelles, que ce soit dans les années 70 ou actuellement, les Britanniques se considèrent encore d'une certaine façon comme des insulaires par rapport au continent.
Et ce que disait André Siegfried, le grand maître de Sciences Po, vous rappelez,
l'Angleterre est une île
entièrement entourée d'eau.
Voilà.
En écoutant cette archive, on observe que Madame White, avec quelque sagesse, dit peut-être au fond ça nous concerne plus. Les nouvelles générations évolueront-elles différemment? Cette analyse par classe d'âge est importante. Elle l'est à l'époque et elle l'est aujourd'hui, parce que certains disent au contraire que les jeunes Anglais, en particulier du côté des classes dirigeantes, sont plus sceptiques à l'égard de la construction européenne que ne l'auraient été leurs aînés.
D'une certaine façon, l'échelle européenne, qui était celle des années d'après-guerre, jusque dans les années 70, est devenue maintenant une échelle mondiale, et que l'ouverture au monde est devenue d'une certaine façon presque plus importante que l'ouverture à l'échelle de l'Europe.
Et ce qui nous ramène pour finir à la question des relations avec les États-Unis d'Amérique, puisque de Gaulle fondait sa méfiance et en définitive son refus en face du désir de la Grande-Bretagne d'entrer dans le marché commun dans les années 60, nous l'avons vu, notamment sur l'idée qu'il y aurait toujours une relation privilégiée avec les États-Unis. Est-ce que vous pensez que ce type d'inquiétude du côté des Européens en général, des Français et des Allemands en particulier, perdure?
La Grande-Bretagne n'a plus le choix. Comme le disait Madame Smith, dès les années...
Elle s'appelait Madame White, mais c'est pas
Madame White. Les années 60, l'Angleterre avait perdu l'Empire, elle n'avait pas retrouvé un rôle, mais maintenant, on ne voit pas très bien ce qu'elle pourrait rechercher du côté des États-Unis, qui, eux, ont fait leur pivot vers le continent asiatique, et c'est bien cela qui pose problème pour la Grande-Bretagne, qui ne peut plus se reposer sur cette relation spéciale anglo-américaine.
Eh bien, il me semble que nous aurons donné à réfléchir à nos auditrices et à nos auditeurs sur la grande question de la permanence des relations entre la Grande-Bretagne et le continent, son désir d'y être présente et sa crainte d'y être, et puis l'obsession souvent, il faut bien le dire, de diviser, pour régner, de diviser les puissances du continent, c'est toujours vrai.
Je pense que de ce point de vue-là, les raisons structurelles sont plus importantes que le reste. On voit bien combien la Grande-Bretagne reste, malgré l'évolution mondiale, attachée à son insularité et à sa spécificité.
Affaire à suivre. Vous avez donné un livre important, considéré comme tel par tous, sur la politique extérieure du général de Gaulle entre 1958 et 1969, que vous avez choisi d'intituler avec un mélange de peut-être d'ironie et de considération, La Grandeur, un livre paru en 1998 chez Fayard et qui a été récemment réédité en livre de poche par les excellentes éditions du CNRS Édition. Hommage rendu à Pierre Gerbet, entre bien des livres, bien des ouvrages sur la construction de l'Europe, dont vous retrouverez plusieurs sur notre site, comme d'ordinaire, l'ouvrage de Pierre Gerbet qui s'intitule « La construction de l'Europe ». Très belle synthèse et rappel du détail des événements, j'y renvoie. Vous pourrez trouver des références, des documents sonores que nous avons utilisés, bien sûr, également sur notre site, et vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission en la conservant en famille pour l'éternité. Samedi prochain, nous parlerons des relations entre l'Allemagne et la Grèce, entre tumultes et passions. Je n'ai pas besoin, je pense, de souligner l'actualité de ce thème-là. Et je recevrai pour cela Johann Chapoutot. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Antoine Tricot, avec l'appui aussi de Jeanne Guérou. Une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Élise Leu à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Et dans quelques instants, je transmets la responsabilité de l'antenne à Dominique Rousset pour l'économie en question.